enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Une petite anecdote avant de commencer. Il y a quelque temps, je rentrais chez moi et je vois, il faisait nuit. Il faisait déjà bien nuit comme ça. Et je vois un monsieur qui avait l'air de chercher quelque chose. Il était comme ça, sous un lampadaire. Donc il y avait une espèce de grand halo lumineux comme ça. Il était comme ça, il cherchait. Je dis, ce pauvre monsieur a perdu quelque chose. Donc je m'arrête, je veux le voir. Je dis, monsieur, vous avez perdu quelque chose? Il me dit, oui, j'ai perdu mes clés. Ben, je dis, je vais chercher avec vous. Alors on s'est mis à chercher comme ça. On a cherché fatigué. Au bout d'un moment, je lui dis, mais je me redresse. Je dis, mais vous êtes sûr que vous les avez perdus là? Il me dit non. Et ben j'ai dit, mais alors. Il me dit non. Mais je disais, vous les avez perdus où? Il me dit là-bas. Mais je dis, mais pourquoi vous cherchez là? Il me dit, ben parce que là on y voit, là-bas c'est tout noir. Alors bon, je l'ai laissé chercher. Parce que j'avais conscience que. S'il trouvait quelque chose, il serait déçu. Donc, je l'ai laissé. Mais c'est juste pour dire que vous avez des gens qui cherchent, mais est-ce qu'ils cherchent pour trouver ou est-ce qu'ils cherchent pour le plaisir de chercher? Et spirituellement, c'est intéressant. Vous avez des milieux, j'ai connu des milieux religieux, où c'était de très bon ton de chercher. Mais alors, si vous arriviez en disant que vous aviez trouvé, alors là, ça allait mal. Hein? Si vous cherchez, ça va. Je suis en recherche. Ah, c'est bien. Mais le jour où vous dites, j'ai trouvé. Alors là, on ne vous accepte plus. Hein. Il faut seulement chercher. Bon, alors dans ces cas-là, c'est vrai qu'on peut chercher. Autant chercher dans la lumière. Hein. Enfin, c'est un candélabre, quoi. Hein. Jésus nous a dit qu'il est la lumière. Hein. Il a dit, je suis la lumière. Mais il a dit aussi que Dieu a dit aussi qu'on pouvait le chercher et qu'on le trouverait. Il n'a jamais dit « cherchez, puis quand vous allez mettre la main dessus, tac, je me tire ». Non, Jésus a dit « celui qui me cherche, il me trouve ». Et c'est pour ça que Dieu nous a donné la Bible, hein, pour que nous puissions le chercher et le trouver. La Bible n'est pas un livre hermétique. La Bible n'est pas rédigée dans un style abscon et complètement impénétrable. C'est un livre qui est fait pour être lu, qui est fait pour être compris, qui est fait pour nous guider, qui est fait pour nous éclairer, pour nous illuminer. Quand vous découvrez la Bible, quand vous découvrez tout ce qu'il y a dedans, vous vous sentez éclairé de l'intérieur. C'est extraordinaire. La Bible, c'est un monde, c'est un univers. Une des notions centrales de la Bible, c'est la notion de sacrifice. Si on enlevait de la Bible tout ce qui concerne le sacrifice, alors il vous reste à peu près la couverture, quoi. Mais sinon, elle est vide. Hein. Tout est dans le sacrifice. Dès la chute de Adam et Ève, Dieu leur a donné, pour se couvrir, Dieu leur a donné des peaux de bêtes hein, pour cacher leur nudité, pour cacher leur péché. Donc pour leur donner des peaux, il a fallu sacrifier des animaux. Dès que Caïn et Abel ont commencé à adorer Dieu, Abel a offert des sacrifices. Et toute la Bible, après toute la loi de Moïse, est évidemment centrée sur la notion du sacrifice. Et tout l'Ancien Testament, toute l'Alliance est centrée sur cette notion du sacrifice et cette notion du sang. Le Nouveau Testament nous montre que Jésus est venu pour être celui qui s'est donné en sacrifice. Et la fin de l'Apocalypse nous parle de celui qui a été immolé, l'agneau de Dieu immolé avant tous les siècles. Celui que Jean a vu, il a entendu une voix qui lui a dit « c'est le lion de Juda ». Et quand il s'est retourné pour voir le lion de Juda, alors il a vu un agneau comme immolé. Toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, hein, c'est l'histoire de ce sacrifice divin. C'est l'histoire de la rédemption de l'humanité par la victime sainte. Et ce matin, je voudrais simplement revenir un petit peu sur ces choses. Christ, notre sacrificateur, Christ, notre prêtre, Christ, le grand prêtre, Christ, celui qui est à la fois le sacrificateur et en même temps qui est la victime. Il est le saint sacrificateur qui a offert la sainte victime. Il fallait que le sacrificateur soit saint pour offrir la victime. Mais il fallait que la victime soit sainte. Et il fallait que Jésus fasse l'un et l'autre. Il est descendu du ciel pour être le sacrificateur et la victime. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons un sacrificateur qui est toujours vivant. Et nous avons une victime sainte qui est toujours vivante devant le trône de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons pas seulement de l'espérance au sens humain, habituel du terme, mais nous avons une ferme attente. C'est pour ça que nous avons une ancre qui traverse et qui monte jusqu'au ciel. Une ancre, l'ancre d'un bateau, normalement, elle s'enfonce vers le bas afin de chercher le fond pour que le bateau ne dérive pas. Mais nous, notre fond, il est en haut. Notre ancre, elle monte dans le ciel. Elle s'accroche au ciel et nous ne dérivons plus parce que nous sommes fixés en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus ballottés à tout vent de doctrine, nous ne sommes plus ballottés au gré des mouvances de la philosophie et des choses sociales, mais nous avons des certitudes. C'est peut-être pas de bon ton aujourd'hui de parler de certitudes. Aujourd'hui, pour être tendance, il faudrait toujours être très subjectif, très relativiste. Oui, on peut penser, certains croient, il semblerait, mais d'autres, oui, vont au même endroit, mais ils partent par une direction opposée, mais tous rejoints. La Bible nous donne des certitudes. Nous avons droit à des certitudes. Dieu est certain. Dieu n'est pas flou, et c'est pas parce que Dieu est esprit que Dieu est vaporeux. Dieu est quelqu'un. Dieu est quelqu'un, et nous pouvons connaître ce quelqu'un que Christ nous a révélé. Avant que Jésus ne se donne, dans l'ancienne alliance, les gens pouvaient offrir des sacrifices. Mais évidemment, c'était des sacrifices d'animaux. Et le sang devait être mis sur les coins de l'autel. Et c'est ce sang qui couvrait le péché. Ça ne l'expiait pas, mais ça le couvrait seulement. C'est-à-dire que c'est comme Dieu acceptait, à cause du sang de ces sacrifices, Dieu acceptait de ne plus voir le péché. Comme si vous prenez un objet quelconque, et puis vous mettez quelque chose dessus. Vous le mettez quelque chose dessus. Ce qui était dessous, on le voit plus. Mais il est toujours là. Il est couvert. Ça, c'est ce que faisait le sang des sacrifices d'animaux. Il couvrait le péché. Et Dieu acceptait dans sa grâce, parce que Dieu a toujours été un Dieu de grâce, de toute éternité, dans sa grâce, Dieu acceptait de ne plus le regarder, il ne le voyait plus, mais il est toujours là. Mais Jésus est venu afin que nos péchés ne soient pas couverts, mais expiés. C'est-à-dire qu'ils soient détruits, qu'ils disparaissent, qu'ils soient anéantis, annihilés, qu'on ne puisse plus jamais ni les voir, ni les trouver, ni les découvrir. Ça, c'est la différence avec le sacrifice que Jésus a fait de lui-même pour notre salut, pour l'expiation de nos péchés. Moïse avait construit sur l'ordre de Dieu, il a construit dans le désert, il a construit une grande, on appelait ça une tente, mais ça ressemble plutôt à une maison qu'à une tente, parce qu'une tente qui fait 5 mètres de haut, ça fait une grosse tente déjà quand même. Et c'était avec les côtés étaient en dur, ce sont des planches, et tout ça était recouvert d'or, les bases étaient en argent. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire, ça devait être très très beau à voir. Et Moïse l'a pas construit en prenant un papier puis en disant tiens, je vais faire des plans. C'est Dieu qui lui a montré le modèle. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ce que Moïse a construit, c'est seulement une maquette. Lui, il a fait une maquette, il a fait une copie. Mais Dieu l'a emmené voir le vrai sanctuaire saint, le vrai tabernacle. Dieu l'a emmené et lui a montré dans le ciel. Vous imaginez? Moïse a vu le vrai, c'est-à-dire l'habitation de Dieu, l'endroit où Dieu, ce qui s'appelle le Saint des Saints, mais celui du ciel. Moïse a vu tout ça, mais ça devait être une gloire extraordinaire. Là-bas, on peut plus compter en mètres, on peut plus compter en tonnes d'or. Tout devient incalculable. Tout le rayonnement, la beauté, la gloire ne peut plus être comparé à des pâles reflets de ce qu'on peut faire avec des matériaux humains. Moïse a vu tout ça et Dieu lui a dit, tu vas en refaire un. Mais bien sûr, il lui a montré un modèle schématisé, quoi. Hein? Il lui a fait un schéma, il lui a fait quelque chose qui pouvait être copié. Il lui a dit, tu fais tout, voilà. Ça, je te montre le modèle, tu fais tout exactement comme ça. Alors Moïse l'a fait. Et je suppose qu'il y a des gens, des Hébreux, quand ils ont vu la gloire de ce tabernacle, parce que quand même, rien qu'au niveau de l'or pur, il fallait quand même 2,5 tonnes d'or pur. Hein, je sais pas si vous en portez un petit peu, là, de l'or, là. En général, on compte pas en tonnes, hein. Hein? Quelqu'un compte en grammes? En décigrammes? Non? Déjà, un kilo, c'est pas mal, hein. Là, c'était en tonnes. Et peut-être que ceux qui ont vu cette gloire, ils étaient prêts à admirer, peut-être même à adorer. Et Moïse, je pense, ça le faisait rigoler. Parce que pour lui, il avait vu le vrai. Alors, il savait bien qu'il avait juste fait une maquette. Mais quand vous avez vu le vrai, vous adorez pas la maquette, hein. Quand vous connaissez vraiment les choses de Dieu, vous ne pouvez plus adorer des représentations. Vous ne pouvez plus vous prosterner devant des copies. Vous ne pouvez plus vous pâmer devant des symboles. Il y a des gens qui sont prêts religieusement à adorer toutes sortes de choses, à adorer des objets, à adorer des formes, à adorer des statues, des images, peut-être même des gens, des personnes. Mais si quelqu'un connaît vraiment Jésus, il peut plus adorer son conjoint, par exemple. Ou il peut plus adorer son pasteur. Il peut plus adorer telle ou telle personne. Il peut plus adorer une image. Il peut plus adorer une statue. C'est ridicule. C'est grotesque. Ça a aucun sens. Moïse ne se serait jamais allé à devenir fier de ce qu'il avait fait parce qu'il a vu le vrai. Il sait très bien que ce qu'il a fait là, ce qui est là, c'est un outil, c'est pour pouvoir dire, voilà une image humaine, juste perceptible à nos sens. Mais il faut bien comprendre que ça, c'est juste pour donner une idée. Lui se serait jamais glorifié de tout ça. C'est tellement infime. Il y a un prophète qui s'appelait Michée, et ce prophète un jour a été convoqué par 2 rois qui voulaient le consulter. Alors les 2 rois, pour consulter le prophète Michée, ont fait ce jour-là, ils avaient fait construire des grandes estrades. Je pense qu'ils ont mis du velours rouge, des tapis, et eux deux se sont présentés sur leur trône avec leurs plus beaux vêtements, avec des couronnes en or, etc. Et Michée est arrivé. Et quand Michée est arrivé, on a l'impression qu'il s'en fichait, j'allais dire royalement, de leur faste. Hein. Il leur a parlé comme il aurait parlé à son collègue jardinier. Mais parce qu'il leur a dit, j'ai vu le trône de Dieu. J'ai vu le roi qui est sur le trône. Alors, quand ils voyaient ces 2 roitelets sur leur construction en aglo, vous imaginez comme ça l'impressionnait? Il s'est peut-être même pas aperçu qu'ils étaient sur des estrades. Peut-être qu'il a même pas vu qu'ils étaient censés être dans leurs habits royaux. Parce que lui, il sortait d'une entrevue avec le roi des rois qui était sur son trône, sur le trône de gloire. Alors le reste, c'était comme un... Je sais pas, moi, ça lui donnait l'impression qu'il s'était déguisé, quoi. Ouais, il s'était déguisé en roi. Ouais, c'est pas mal, on voit que tu fais le roi, c'est bien. Plus nous connaissons les choses de Dieu, plus nous connaissons Dieu, plus les choses qui sont seulement des copies, les choses qui sont d'en bas, les substituts, moins ça nous intéresse, moins ça nous frappe, moins ça nous impressionne. On n'est pas impressionné par des trucs faits de main d'homme. Ce qu'on a besoin, c'est de voir les choses de Dieu. Ce qu'on a besoin, c'est de voir la réalisation de ce que Dieu fait. Ce dont nous avons besoin, c'est de voir l'action même de Dieu. C'est de découvrir notre grand sacrificateur. Les hommes sont des hommes, mais nous avons aujourd'hui un grand sacrificateur qui est toujours vivant. Il est toujours dans le ciel. Il est toujours capable d'intercéder pour nous. L'œuvre lui appartient. C'est lui le seul roi. C'est lui le seul chef. Tout le reste doit s'incliner. Tout doit disparaître devant lui. Un passage dans la Bible dit que tout ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination devant Dieu. Dieu seul est élevé. Aujourd'hui, voyez, je l'ai pas vu, mais j'aurais bien aimé. Quelqu'un a construit une maquette pour représenter le tabernacle de Moïse. Hein, c'est une exposition qui a circulé en France, en Suisse, et je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça permettait de rentrer dedans, de voir, de comprendre comment ça fonctionnait, quel était le service des prêtres, des lévites, etc., toutes ces choses-là. Et je trouve que c'est formidable. Et quelquefois, on dit, ouais, on a fait une maquette du vrai tabernacle. Non, parce que le vrai tabernacle était lui-même une maquette. C'est seulement la maquette de la maquette. Mais si ça nous aide à voir comment c'est bien. Mais c'est seulement la maquette de la maquette. Aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus a fait? Et ce que Jésus a fait, je veux dire, cette maquette que Moïse a fait dans le désert, ce tabernacle, était fait pour nous aider à comprendre ce que Jésus fait. Une fois par an, le grand sacrificateur dans la religion hébreu, dans la religion juive, une fois par an, le grand sacrificateur devait faire l'expiation des péchés pour tout le peuple. Alors il offrait des sacrifices d'abord pour se purifier lui-même, parce que lui, il savait qu'il était un homme et qu'il était aussi fragile. Donc, d'abord, il faisait des sacrifices pour se purifier. Après, il offrait des sacrifices pour le péché du peuple. Et il prenait le sang de ce sacrifice et il entrait dans cette grande tente. Dans cette grande tente, il y avait deux parties. Une partie où tous les prêtres pouvaient entrer et puis une autre partie qui était fermée par un rideau. Et là, tenez-vous bien, il n'y avait qu'une seule personne qui avait le droit de rentrer, le grand sacrificateur, et il n'avait le droit d'y rentrer qu'une seule fois par an. Donc c'est un endroit qui n'était pas très habité, quoi. Hein? Mais Dieu avait dit, c'est là que j'habite. Et quelque part, c'est angoissant, parce que Dieu a dit, voilà où j'habite, et tout de suite après, il dit, mais personne n'a le droit de venir. C'est dommage. Dieu dit, j'habite là. Mais personne ne vient. Alors le sacrificateur, le grand, venait une fois par an. Et je pense qu'il arrivait, parce que c'était tellement solennel, il venait en tremblant, en apportant le sang. Et quand il arrivait, alors sur l'arche, qui était là, une espèce de coffre, recouvert d'or, sur le couvercle, il versait le sang. Et alors le sang couvrait le péché. Quand il ressortait, tout le monde l'attendait dehors, quand il ressortait, il prononçait les paroles du pardon du péché. Et tout le monde était content. Pour une année encore, Dieu a couvert le péché. Quand Jésus est venu, Jésus n'aurait jamais pu rentrer dans cette partie du tabernacle, parce que lui, il n'était même pas de la famille des sacrificateurs. Mais Jésus est venu afin d'offrir une autre sorte de sacrifice. Non pas le sacrifice selon la loi de Moïse. Il est dans un autre ordre. Et il est venu pour offrir son sang. Quand Jésus est mort sur la croix, alors sur la croix, il a vaincu le diable. Il a vaincu l'adversaire. Et il a donné son sang pour le pardon de tous nos péchés. Et il a porté ce sang dans le tabernacle. Mais il n'a pas porté le sang dans la maquette. Il n'a pas emmené dans le tabernacle de Moïse, parce que lui l'a emmené dans le vrai tabernacle. Celui dont l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est un tabernacle qui n'a pas été construit de main d'homme. C'est l'habitation de Dieu. Jésus est monté au ciel. Et là, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a apporté son sang dans le lieu très saint, dans la présence même de Dieu. Et là, les péchés ont été expiés. C'est pour ça que, par exemple, quand vous voyez le dimanche matin, Jésus ressuscite, et vous vous rappelez que Marie-Madeleine et quelques femmes sont allées au tombeau pour donner les soins au corps. Elles pensaient que Jésus était encore là. Et quand elles sont arrivées, il y a eu la visite des anges, elles sont retournées, et à un moment, Marie-Madeleine s'est retrouvée là, toute seule. Et elle était complètement défaite, elle était éplorée, en plus de tout le chagrin d'avoir vu Jésus mourir. Maintenant, même son corps avait disparu, le tombeau était vide. Elle pleurait, elle était vraiment brisée comme ça de douleur, hein. Et pendant qu'elle regardait comme ça dans le tombeau, elle pleurait, elle s'est rendue compte qu'il y avait quelqu'un qui était là à côté d'elle. Et comme c'était très tôt, elle était venue à peine la fin du sabbat, c'était juste à peine l'aube, il n'y avait pas de promeneur, il pouvait y avoir personne, c'était au milieu d'un jardin. Donc elle a pensé dans sa tête que c'est celui qui s'occupe du jardin qui est là de bonne heure pour son travail. Elle a cru que c'était le jardinier. Alors avec beaucoup de politesse, avec beaucoup de déférence, elle lui a dit, écoute, si c'est toi qui a pris le corps pour le mettre ailleurs, dis-moi où il est. Elle pleurait, elle a pas regardé. Et puis alors, et alors ce monsieur l'a appelé par son nom. Et quand elle a attendu qu'il l'appelait par son nom, tout d'un coup, elle a réalisé, elle a reconnu la voix, elle a fait attention, et elle a su que c'était Jésus. Jésus était là. Elle était tellement heureuse, elle voulait se précipiter vers lui. Ils étaient des amis. Et Jésus lui dit, curieusement, Jésus lui dit, ne me touche pas. C'est pas que d'habitude, ils n'avaient pas des rapports amicaux. Jésus pouvait très bien, ils pouvaient très bien être ensemble, normalement. Mais Jésus lui dit, ne me touche pas. Il dit, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, hein. Jésus était en train, il sortait de la mort. Il était en route vers le lieu très saint pour y porter le sang du sacrifice. Quand le grand sacrificateur, selon la loi de Moïse, devait rentrer dans le tabernacle, personne n'aurait pu le toucher. Parce qu'il fallait qu'il soit, saint. Il fallait qu'il soit sans aucun contact avec quoi que ce soit. Il venait d'offrir des sacrifices pour son péché. Il venait d'offrir des sacrifices pour le peuple. Il fallait qu'il reste, que personne, s'il passait à côté de quelqu'un, il devait faire bien attention à ce que personne ne le touche. Pour rester saint. Jésus dit, il sortait du tombeau, il a dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas. Je vais monter vers mon Père. Je vais monter vers Dieu. Et là, Jésus a déposé dans la présence de Dieu, Jésus a déposé dans le lieu saint le sang qui est la garantie de notre salut. Le sang qui est la garantie du pardon de tous nos péchés. Le sang qui nous assure que nous n'irons pas en enfer. Le sang qui nous a tracé un chemin. Le sang qui nous a donné le seul accès que nous avons devant Dieu. Ce sang a été répandu. Il a été déposé. Après, c'était fait. La semaine suivante, par exemple, quand Jésus est revenu, et puis qu'à un moment, il a vu Thomas, par exemple, il n'y avait pas de problème. Il dit à Thomas, puis vous vous rappelez de cette histoire de Thomas, non? Hein? Thomas, vous connaissez? Le patron des incrédules. Tout le monde connaît. Alors, Thomas croyait pas. Jésus lui a dit, viens, touche. Il a dit, touche. Vous voyez, là, maintenant, il lui a dit, touche, touche-moi. Même en grec, d'ailleurs, c'est pas les deux mêmes mots. Quand Jésus parle à Marie-Madeleine, c'est « ne me touche pas au sens juste du contact ». Faut pas qu'on ait de contact. Hein. Mais après, c'est toucher dans le sens de palper, de vérifier. Aujourd'hui, nous avons un souverain sacrificateur qui est proche de nous. Qui est proche de nous. La Bible dit qu'il n'a pas honte d'être appelé notre frère. Vous imaginez? Vous imaginez le grand Jésus qui a fait une telle œuvre et qui accepte que nous, on puisse l'appeler frère, que lui-même nous appelle ses frères. Moi, je trouve ça quand même, c'est quand même étonnant. Il y a une telle, on peut même pas comparer la différence de niveau, de nature. Mais Jésus nous aime. Aujourd'hui, C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de sacrificateur. Et c'est pour ça que dans l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, il n'y a pas de prêtre. Hein. Il n'y a pas de prêtre. Vous savez, quelquefois, au niveau des mots, il faut bien se comprendre. Des fois, on dit, ouais, dans certains milieux, on dit qu'il y a des... Par exemple, dans l'Église catholique romaine, il y a des prêtres, et puis chez les protestants, d'une façon générale, c'est des pasteurs. Mais certains disent, mais c'est juste une question de terminologie. C'est des mots différents. Là-bas, ils disent prêtre, chez vous, vous dites pasteur, c'est pareil. Écoutez-moi, c'est pas la même chose. Parce qu'un prêtre est fait pour offrir un sacrifice. Un prêtre est fait pour présenter, pour être un intermédiaire. Un pasteur n'est pas un prêtre. Un pasteur, c'est quelqu'un qui aide, qui conduit, qui fait un travail de berger. Il apporte des soins, il console, il enseigne, etc. Mais il n'est pas un intermédiaire. Hein. Aujourd'hui, la Bible dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et nous, sauf Jésus-Christ. Hein. C'est lui qui est notre grand prêtre. Hein. C'est lui seul qui est notre sacrificateur. Aujourd'hui, il n'y a pas de sacrificateur dans le peuple de Dieu, si ce n'est que chacun est prêtre pour sa propre vie. Chacun est prêtre pour sa propre vie. Hein, l'apôtre Paul dira, offrez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça le sacrifice, c'est que chacun se donne lui-même à Dieu. Mais c'est le seul, personne n'est sacrificateur pour personne d'autre. Personne n'est prêtre pour personne d'autre. Tout ça, c'est fini parce que nous sommes rentrés dans une alliance où les choses qui étaient là simplement avant pour nous en parler, pour les annoncer, pour les donner des images, pour être comme des paraboles, ces choses-là maintenant sont réalisées. Elles sont réalisées en Jésus-Christ. Nous avons maintenant un souverain sacrificateur fidèle et miséricordieux dans la maison de Dieu. Celui qui a traversé le lieu saint, celui qui est descendu, celui qui a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, le vrai. Et ce sacrificateur est toujours là-haut pour nous. Aujourd'hui, le sang de Jésus est capable de nous délivrer du péché. Le sang de Jésus est capable d'expier toutes nos fautes. Le sang de Jésus nous délivre. Le sang de Jésus est la garantie de notre liberté. C'est parce que Jésus a versé son sang que le diable n'a plus de droit sur les enfants de Dieu. Il n'a plus de droit sur ceux qui réclament que ce sang de Jésus vienne et les délivre. Tout à l'heure, pendant que je pensais à ce message, il me semble qu'il y a des personnes qui sont encore dépendantes d'intermédiaires. Des gens qui pensent, qui disent, oui, bon, je comprends ce qu'on dit. Ouais, d'accord, c'est pas faux. Ok, d'accord. Mais moi, j'ai besoin d'intermédiaires. Peut-être c'est un monsieur qui, quand il prie, il a besoin de prier devant son petit crucifix. Et je dis que si c'est un besoin, ne crois pas, tu dis, ça m'aide, mais ne crois pas que ça t'aide pas. Ça devient un obstacle entre Dieu et toi. On n'est pas contre le fait des représentations et des symboles, on a bien une croix ici. Mais c'est pas un besoin. C'est simplement parce que nous voulons marquer avec une image que nous croyons que notre vie, c'est l'œuvre de ce Jésus-Christ qui est allé sur la croix et qui aujourd'hui est ressuscité et qui est aujourd'hui est dans le ciel. Mais si tu as besoin d'images, si tu as besoin d'objets, de crucifix, si tu as besoin de choses comme ça, alors à ce moment-là, tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin de comprendre que toutes ces choses, c'était des annonces, c'est des copies, mais c'est des choses qui se mettent entre toi et Dieu. On a besoin d'être libre. Libre! Le sang de Jésus nous libère aujourd'hui. Je voudrais juste vous lire quelques versets à ce sujet. Par exemple, on dit, je l'ai cité, mais c'est dans Hébreux 8, 1, 2, ne cherchez pas si vous voulez, je vais vous le lire comme ça. Hébreux 8, 1, 2, le point capital, dit l'auteur de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non pas par des hommes. Et aussi au chapitre 9, les versets 11 11-12, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Hébreux 5, 9, 9, 10. Hébreux 5, 9, 10. Christ est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'a déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire que ce n'est pas selon l'ordre de la loi de Moïse. C'est un ordre spécial. C'est un ordre différent. C'est l'ordre de celui qui a donné sa vie. Vous avez aussi encore des versets intéressants comme 1 Timothée 2,5 à ce sujet. 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Il y a un seul intermédiaire, un seul médiateur, un seul prêtre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a plus à faire des sacrifices. Le sacrifice de Jésus a été fait une fois pour toutes. Et il est parfait. Il est divin. Il est, la victime est sainte. Et le sacrificateur est saint. Personne ne peut plus refaire le sacrifice de Jésus. Personne ne peut plus refaire le sacrifice de Jésus. Et encore 1 Pierre 2, 5. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire chacun s'offre lui-même à Dieu. C'est le sacrifice, une victime spirituelle. Et Romains 12, 1 dit à peu près la même chose. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voyez, le plan de Dieu, avant même la loi, le plan de Dieu, c'était de se faire un peuple qu'il a appelé un peuple de sacrificateurs. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse avant de lui donner la loi. Il avait dit un peuple de sacrificateurs. Et curieusement, quand on arrive à la loi, on s'est aperçu que les sacrificateurs, c'était pas tout le peuple, que les sacrificateurs, c'était seulement une tribu sur les 12. Et même dans cette tribu, c'était seulement une des familles sur les 3. Et dans cette famille, c'est seulement les hommes. Et dans les hommes, c'est seulement ceux qui ont entre tel âge et tel âge. Et dans ceux-là, c'est seulement celui qui... Donc on voit tellement de restrictions. Mais Dieu avait dit clairement au début que c'est pas son vrai plan. Ça, c'est pas son vrai plan. Le vrai plan original, au début, il avait dit à Moïse, un peuple de sacrificateurs. Et c'est en Jésus que le plan de Dieu s'est accompli. Nous sommes aujourd'hui un peuple de prêtres. Nous sommes aujourd'hui un sacerdoce royal. Aujourd'hui, nous tous, nous avons accompli, parce que Jésus l'a accompli en nous, le vrai plan de Dieu. Ce plan de Dieu s'accomplit aujourd'hui. Chers amis, c'est vrai que c'est difficile des fois de parler de cette notion de sang, parce que nous sommes dans une société où tout ce qui était du sang, comme par exemple on connaissait dans les fermes, tout le monde savait... tuer un lapin, un poulet, le sang, on connaissait. Aujourd'hui, maintenant, la plupart d'entre nous, on n'a jamais eu cette occasion-là. Et si on devait vraiment, même pour manger, si on devait, beaucoup d'entre nous, pris par la faim, s'ils devaient partir du lapin vivant, ils vont encore avoir faim un bon moment, avant de savoir comment s'en sortir, Ça va être difficile. Et puis c'est des notions qui, quelque part, ça nous ragoûte pas, quoi. Alors on a du mal, et avec cette notion de sang, et on considère facilement cette notion comme une notion un peu anachronique, anticulturelle, quelque chose d'un peu, un peu périmé, un peu vieillot. Bon, on dit, oh, bon, ben, ça, c'est des symboles. Peut-être même certains se disent, on pourrait peut-être changer les symboles. Mais je vais vous dire, ne perdez pas de vue que le sang de Jésus est votre seule garantie. Le sang de Jésus vous lave. Des fois, on chante ça, et c'est vrai que ça mérite quelques explications. Hein, laver dans le sang de l'agneau, bon, c'est pas un chant pour une réunion d'évangélisation. Hein. Celui qui n'a jamais entendu parler de ça, quand il rentre dans une salle, il entend qu'il faut être lavé dans le sang de l'agneau, il a un peu du mal. Mais nous qui avons vécu ces choses, nous qui les avons vécues de l'intérieur, frères et sœurs, gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur le sacrifice. Gardons toujours la croix au centre de notre vie, au centre de nos activités, au centre de notre famille, au centre de notre foyer, au centre de nos affaires, au centre de tout ce que nous faisons. Parce que c'est ça qui est la seule valeur divine, la seule chose qui va nous aider. J'aimerais encore ce matin prier, parce que pour quelques-uns, je pense qui ont besoin de révélation de Dieu à ce sujet. Pour certaines personnes, je crois que ces choses sont un peu voilées, parce qu'elles ont été voilées par de faux aspects des religions, de la religion, des traditions, peut-être de la culture, de la philosophie, etc. Et quelques-uns sont encore accrochés à des choses qui étaient des choses d'avant, des choses qui étaient des images. Hein. Mais il faut vous dégager de tout ça. Jésus dit, ceux qui m'adorent, ce sont ceux qui adorent le Père, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous ne sommes plus attachés à des lieux, à des formes, à des structures, à des objets, à des représentations. Le sang de Jésus ne vient plus aujourd'hui sur le peuple de Dieu par aspersion, comme dans l'ancienne alliance. Jésus n'a pas pris la coupe et il n'a pas dit à ses disciples, prenez et puis faites-en l'aspersion les uns sur les autres. Jésus a dit, prenez et faites-le rentrer au-dedans. Prenez et buvez-en tous. Aujourd'hui, la grande différence, c'est que nous n'avons pas sur nous, nous ne sommes pas au bénéfice de sacrifices imparfaits offerts par des sacrificateurs imparfaits qui ne pouvaient soigner que l'extérieur. Mais nous avons le vrai sang de la victime sainte offert par le sacrificateur saint et ce sang précieux vient au-dedans de nous. Nous l'avons bu tout à l'heure, nous avons pris part à la coupe, nous avons signifié que nous voulions qu'il rentre au-dedans de nous, qu'il nous lave de l'intérieur. Nous voulons être changés, transformés, libérés. C'est pour ça que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité n'est pas une doctrine, la vérité n'est pas une théorie, la vérité n'est pas un concept. La vérité, c'est la personne de Jésus, c'est lui qui nous libère. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes dans la joie de proclamer que tu es le grand sacrificateur, que tu es notre seul sacrificateur, et que le sang de Jésus est venu pour nous purifier de tout péché, pour nous libérer du diable, pour nous libérer de nous-mêmes, pour nous affranchir. Te prie Seigneur, que par ton Saint-Esprit, ceux pour qui ces choses sont difficiles à comprendre, ceux pour qui elles paraissent seulement comme des théories théologiques. Je te prie que maintenant, les résistances à la compréhension de la puissance du sang de Jésus, que ces résistances se soient brisées maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute opposition à la connaissance du sang de Jésus, toute opposition théologique, toute opposition traditionnelle, toute opposition religieuse, toute opposition culturelle. Au nom de Jésus, je vous ordonne, vous quittez chacun des pensées, des cerveaux même, des raisonnements, des cœurs que vous tenez, je vous lis, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la libération par le sang de Jésus. Je proclame la libération par le sang de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus. Alléluia.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.